Tout de suite, c'est l'heure du journal. Aurélie Kiefer, bonsoir.
Bonsoir Hervé, bonsoir à tous. Climat tendu au Venezuela, deux jours après l'échec d'un soulèvement militaire, des manifestations pro- et anti-gouvernementales sont organisées, nous irons à Caracas. Attention à ne pas abuser des visas dorés, c'est la recommandation faite par la Commission européenne. Malte, Chypre ou la Bulgarie sont particulièrement coutumiers de cette pratique, permettant à des étrangers fortunés d'acquérir des permis de séjour ou même la citoyenneté d'un pays de l'Union. La France, toujours championne du monde des dépenses sociales publiques, le classement de l'OCDE place la France en tête devant la Belgique et la Finlande. Précision à venir de Marie Viennot. Et puis le maire écologiste de Grande-Synthe poursuit l'État français pour inaction climatique. Estimant sa commune menacée par la montée des eaux, Damien Carême saisit le Conseil d'État. Journée de mobilisation au Venezuela. L'opposition appelle à manifester contre le président Nicolas Maduro. Et en ce jour anniversaire de la chute de la dictature en 1958, les Vénézuéliens sont très nombreux dans les rues de la capitale Caracas. L'opposition reste divisée, mais elle s'est trouvée une figure politique rassembleuse, Juan Guaido, jeune président du Parlement. Il est dans la rue aux côtés des manifestants. Quatre personnes ont trouvé la mort lors de premiers accrochages, mais à Caracas, pour le moment, les défilés n'ont pas occasionné de violence, Benjamin Delisle.
Les manifestants ont commencé à descendre à partir de 9h du matin sur l'avenue Francisco de Miranda pour rejoindre le point de rendez-vous dans le quartier de Chacao. Énormément de gens sortaient des bouches de métro, énormément de gens descendaient aussi de quartiers populaires. Certains m'ont confié qu'ils n'en pouvaient plus de la situation économique, des pénuries d'aliments, des pénuries de médicaments. Et tous sont sortis pour rejeter Nicolas Maduro, pour dire que ce président n'est pas légitime et qu'il doit partir. Les Vénézuéliens sont extrêmement nombreux aujourd'hui. Les rues autour de l'avenida Francisco de Miranda, autour de midi, sont complètement bouchées. Plus personne n'arrive à avancer. Des drapeaux vénézuéliens sont brandis par les manifestants qui ont aussi des casquettes à l'effigie de leur pays. Un peu plus loin, une manifestation de chavistes est aussi organisée, plus calme celle-ci, très proche de la manifestation de l'opposition. Mais l'ambiance pour l'instant reste calme, reste détendue. Du côté de l'opposition, elle est très joyeuse. Tous ont bon espoir que cette manifestation aboutira au départ de Nicolas Maduro. Et concernant les forces de police, elles ne sont pour l'instant pas déployées. Elles n'empêchent pas la manifestation d'avoir lieu.
Benjamin Delisle à Caracas pour France Culture. Les présidents russes et turcs se sont rencontrés à Moscou pour discuter de la Syrie. Recep Tayyip Erdogan a tenté de convaincre Vladimir Poutine du bien fondé de sa proposition d'une zone de sécurité dans le nord syrien pour y empêcher toute autonomie kurde. De son côté, Moscou s'inquiète de la dégradation de la situation dans la province d'Idlib, dans le nord-ouest de la Syrie, où la Turquie et la Russie ont instauré à l'automne dernier une zone de désescalade. L'enclave d'Idlib est aujourd'hui en grande partie sous le contrôle des djihadistes du front Al-Nosra, regrette Moscou. La Commission européenne appelle les pays membres de l'Union à plus de vigilance dans l'octroi de visas dorés. Ces dispositifs permettent à de riches investisseurs d'acquérir des permis de séjour ou même la citoyenneté d'un pays européen. Ils sont très controversés et la Commission met en évidence les risques qu'ils occasionnent en termes de sécurité, de blanchiment d'argent ou encore d'évasion fiscale, Marie-Pierre Véraud.
Et oui, parce que les critères pour obtenir ce précieux sésame, qu'il s'agisse de la citoyenneté ou du permis de résidence, sont assez opaques. Il n'y a pas de partage d'informations entre États membres, pas d'harmonisation non plus des critères et il est très difficile d'avoir des données fiables. Y a-t-il vérification du casier judiciaire, de l'origine, du patrimoine? Pas sûr. Malte accorde ainsi son passeport, donc sa nationalité, à des personnes ayant un casier judiciaire. La Hongrie ou la Lettonie octroient leur permis de résidence dans 90% des cas, ce qui semble indiquer qu'ils ne sont pas très regardants sur la sélection des impétrants. Dans la course pour attirer les investisseurs, il y a en fait une espèce de concurrence entre les États et le moins regardant l'emploi. Or, lorsque l'on vend sa citoyenneté, remarque la Commission européenne, c'est le cas pour Malte, Chypre ou la Bulgarie, pour des sommes allant de 800 000 à 2 millions d'euros, on accorde aussi la citoyenneté européenne. Et pour ces trois pays, il n'y a même pas d'obligation de résidence. Chinois, Russes, Américains ou encore Ukrainiens fortunés sont donc particulièrement friands de ce passeport doré qui leur ouvre les portes de l'Union. Mais il y a aussi le visa doré qui, lui, est octroyé par une vingtaine de pays, dont la France, permis de résidence ou de séjour en échange d'investissement. Pour être résident français, outre une mise de départ de 350 000 euros, il faut ainsi notamment s'engager à créer ou à maintenir des emplois.
Et alors, en quoi ce permis de séjour pose problème exactement?
Bien, c'est vrai qu'on aurait tendance à penser que ce permis de résident engage moins que le passeport, qui lui permet notamment de voter ou de se présenter aux élections locales, c'est vrai. Mais outre que dans plusieurs pays, un certain nombre d'années de résidence entraîne l'attribution automatique de la nationalité, ce que l'on vend, c'est surtout la mobilité. Car être résident européen permet de circuler circuler plus facilement dans l'espace Schengen et dans le monde, d'ouvrir un compte en banque, etc. Criminels et corrompus peuvent, s'inquiète des ONG anticorruption qui avaient tiré la sonnette d'alarme à l'automne dernier, trouver refuge en Europe. Transparency International et Global Witness estiment que les pays de l'Union ont vendu ces 10 dernières années pas moins de 6 000 passeports et 100 000 permis de séjour, un business qui, pense-t-elle, a généré quelques 25 milliards d'euros d'investissements directs. On comprend l'appétence des États, mais aussi la nécessité de vérifier l'origine des fonds ou la qualité des demandeurs de ce précieux sésame.
Marie-Pierre Véraud. Retraite, santé, famille, emploi, les dépenses sociales publiques ont représenté 31,2% du produit intérieur brut de la France. C'est le pays qui y consacre le plus parmi les 36 pays de l'OCDE. L'Organisation pour le développement et la coopération économique vient de publier une étude à ce sujet aujourd'hui. Bonsoir Marie Viennot.
Bonsoir.
La France occupe le haut du classement depuis 2016.
Oui, et que l'on prenne les dépenses de retraite, de santé, pour l'emploi ou la famille, la France arrive toujours dans les 7 premiers pays sur les 36 que compte l'OCDE, devant ou plus rarement juste derrière la Belgique, la Finlande, le Danemark et l'Italie. Par dépenses sociales publiques, l'OCDE entend toutes les prestations en espèces ou en nature qui passent par les administrations publiques centrales, locales, gérées par l'État ou des organismes paritaires comme la Sécurité sociale. En France, c'est donc 31,2% du PIB. La moyenne de l'OCDE, c'est 20%. Un pourcentage qui baisse depuis la crise de 2009, les deux tiers des pays de l'OCDE ayant réduit leurs dépenses sociales publiques après la crise financière, surtout l'Irlande et la Hongrie. Les pensions de retraite pèsent en moyenne 8% du PIB des pays de l'OCDE. C'est partout la dépense sociale numéro 1. Alors l'OCDE publie aussi un chiffre intéressant des dépenses sociales publiques et privées. Autrement dit, si vous devez cotiser un fonds de pension pour votre retraite ou prendre une assurance santé privée parce que l'assurance de base est trop faible, l'OCDE compte aussi ce que cela coûte. Et c'est aux États-Unis, aux Pays-Bas, en Suisse, en Islande et en Australie que ces dépenses sociales privées sont les plus élevées. Quand on les ajoute aux dépenses sociales publiques, les États-Unis passent de la 21e place à la 2e place, les Pays-Bas de la 26e place à la 3e place, la France, elle, passe de la 1ère place à la 1ère place, même si ses dépenses sociales privées à elle sont nulles. La différence entre les deux systèmes, c'est que les travailleurs à faible revenu n'ayant souvent pas accès à des prestations sociales privées, les systèmes comme ceux des États-Unis et des Pays-Bas sont plus inégalitaires.
Merci Marie Viennot. Nous évoquions hier les tensions croissantes entre la France et l'Italie, tensions qui ne devraient pas retomber dans la perspective des élections européennes. Lundi, l'ambassadrice d'Italie, a été convoquée au Quai d'Orsay pour les propos tenus par Luigi Di Maio et jugés inacceptables par Paris. Aujourd'hui, c'est Matteo Salvini qui est revenu à la charge et Paris hésite entre riposte et mépris. Louise Baudet.
C'est une véritable escalade depuis maintenant plusieurs mois. Emmanuel Macron insulte les Italiens. Ce donneur de leçons devrait se taire. Le plus vite il quittera le pouvoir, le mieux ce sera. Jusqu'à ce message posté hier sur la page Facebook de l'homme fort de la Ligue.
J'espère que les Français vont pouvoir se libérer d'un très mauvais président. L'occasion va d'ailleurs se présenter le 26 mai. Le peuple français va pouvoir reprendre en main son avenir.
Invité ce matin au micro de la RAI, Matteo Salvini enfonce le clou. Macron ne sera peut-être plus notre interlocuteur à l'avenir. Ingérence inédite et réaction quelque peu flottante de la diplomatie française. La porte-parole du Quai d'Orsay dénonce d'abord des propos inacceptables, mais quelques minutes plus tard, la ministre des Affaires étrangères, Nathalie Loiseau, préfère le mépris à la dénonciation.
En France, on a une expression qui dit que ce qui est excessif est insignifiant. Et donc quand des propos sont excessifs à la fois par leur ton et par leur nombre, ils deviennent insignifiants. Vous parlez de mesures de rétorsion. Ma réponse est que notre intention n'est pas de jouer au concours de celui qui est le plus bête.
Surtout, ne pas surréagir au coup de menton de Salvini, destiné d'abord à la scène politique intérieure. Luigi Di Maio, l'autre homme fort du gouvernement, pilonne lui aussi Emmanuel Macron et vient d'accuser Paris d'appauvrir l'Afrique en se servant du franc CFA pour poursuivre son œuvre colonisatrice. La Ligue contre les 5 étoiles, match italo-italien qui avive les tensions entre Paris et Rome, au risque de déclencher une véritable crise diplomatique.
Après le rejet hier de différents recours des prévenus, le procès de l'affaire Spanghero a vraiment pu débuter aujourd'hui. Le tribunal correctionnel de Paris examine donc ce scandale qui avait éclaté en Europe en 2013 de la viande de cheval vendue comme du bœuf. 4 hommes sont jugés, poursuivis principalement pour tromperie et escroquerie en bande organisée. Parmi eux, Jacques Poujol, l'ancien directeur de Spanghero, qui a été interrogé cet après-midi. Le compte-rendu d'audience de Florence Turme.
Visage rond, carrure massive, courte barbe et crâne dégarni, Jacques Poujol raconte avec une certaine fierté son parcours professionnel dans le domaine de la viande. La reprise de la société familiale en 1993, son arrivée chez Spanghero en mai 2011, l'entreprise de Castelnaudary essuie alors de lourdes pertes. Et j'avais, dit-il, les moyens de dire soit on éteint la lumière, soit on laisse allumer. Jacques Poujol procède à des réductions d'effectifs, investit dans des chaînes automatisées, réduit le déficit. En 11 mois, votre rémunération va aussi passer de 13 000 à 30 000 euros, souligne la présidente. Puis vient le temps des questions sur le dossier. Pourquoi les fiches palettes ont-elles été enlevées et modifiées, interroge la magistrate. Sur un produit de viande brute, on est obligé de renseigner le pays de naissance, d'élevage et d'abattage, et il n'y a rien de tout cela. Le prévenu répond sans se troubler, faconde, naturel et accent du Sud. Il veut bien reconnaître la négligence, mais pas l'intention de frauder, de faire passer la viande de cheval pour du bœuf. Cela fait quand même beaucoup d'erreurs sur cette fiche palette, soupire la présidente. Surtout lorsqu'on y ajoute les factures destinées au fabricant Tavola, qui comportent le code douanier du bœuf. Jacques Poujol affirme qu'il ne le connaissait pas plus que celui du poisson, et l'estampille sanitaire. Et le fait que le prix du cheval soit inférieur d'un euro à celui du bœuf, cela ne vous a pas alerté ? Le prévenu secoue la tête. Ce n'était pas le seul critère. Moi, je vous dis que je n'étais pas au courant.
Florence Turmeau, Palais de Justice de Paris. Les substances chimiques potentiellement dangereuses présentes dans les couches jetables pour bébés doivent être réduites ou éliminées. Le gouvernement met en demeure les industriels d'agir dans les 15 jours. Un rapport de l'ANSES, l'Agence nationale de sécurité sanitaire, relève en effet la présence de différentes substances chimiques qui peuvent notamment migrer dans l'urine et entrer en contact prolongé avec la peau des bébés. Parmi les produits identifiés, des pesticides interdits en France et des substances parfumantes toxique. Il n'y a pas de risque immédiat pour la santé des enfants, tient à préciser la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, mais il est impératif de réduire la toxicité de ces produits. Retour sur les CPA12, le dédoublement des classes de CP et CE1 en réseau d'éducation prioritaire. Le ministère de l'Éducation vient de dresser un premier bilan de cette expérimentation, un an et demi après son entrée en vigueur. Un bilan positif, c'est même la réforme dont Jean-Michel Blanquer est le plus fier, Alexis Morel.
C'est notamment pour les élèves les plus en retard que la mesure a un impact, selon les statistiques du ministère. Dans les CP dédoublés, la proportion d'élèves en très grande difficulté a baissé de près de 8% en français et de 12,5% en mathématiques. Cette amélioration peut paraître modeste au regard de la très forte attente politique autour de cette mesure, mais dans l'entourage de Jean-Michel Blanquer, on parle de premiers résultats très encourageants, conformes aux études internationales. Pour que ça fonctionne encore mieux, il faut continuer d'adapter la pédagogie à ces classes dédoublées, selon Fabienne Rosenwald, directrice de l'évaluation au ministère.
Avec des pratiques encore plus différentes, puisque quand on n'en a que 12, les enseignants peuvent imaginer beaucoup plus de différenciation, de personnalisation. On pourrait sûrement avoir de meilleurs résultats. Mais on est à la première année, donc on sait très bien que la première année, c'est aussi une année d'installation. Hein. On peut imaginer d'autres évolutions plus fortes qui, dans ce cas-là, s'ajouteraient aux effets déjà positifs qu'on voit et permettraient d'atteindre des effets beaucoup plus forts.
Les enseignants, justement, ils sont clairement conquis par les dédoublements. 82% d'entre eux constatent une meilleure dynamique de classe. 98% disent mieux identifier les besoins des élèves dans ces CPA12.
190 000 élèves sont actuellement concernés, ils seront 300 000 à la prochaine rentrée. La commission des lois de l'Assemblée a examiné la proposition de loi anti-casseurs, un texte qu'il ne faut pas prendre, prévenait hier Christophe Castaner, pour une loi anti-gilets jaunes ou anti-manifestation. Proposé par des sénateurs Les Républicains, le texte divise la majorité et en commission, le débat a été long. 91 amendements ont été étudiés, Maxime Fayol, et la proposition a beaucoup évolué aujourd'hui.
Oui, avec trois articles au centre des débats. D'abord, le premier qui prévoit un périmètre de sécurité pour fouiller les manifestants, une disposition qui a été tout bonnement supprimée ce matin à l'initiative de plusieurs groupes et notamment de la majorité, au gouvernement donc de proposer une nouvelle rédaction. Autre mesure qui a animé les débats, mais qui cette fois-ci restera dans le texte de loi dans les mêmes termes, c'est la possibilité pour un maire ou un préfet d'interdire à quelqu'un de manifester. La rapporteure du texte, la députée LREM Alice Toureau, a expliqué l'intérêt de cette mesure, notamment notamment pour lutter contre les groupuscules violents venant de l'étranger. Sur le dernier point, enfin, la création d'un fichier de casseurs. Il n'est pas supprimé, mais un amendement de la rapporteure vient le vider de sa substance. Il prévoit en effet qu'aucun nouveau fichier ne sera créé, mais les personnes interdites de manifestation seront inscrites au fichier des personnes recherchées, le FPR, ce qui a mis hors de lui le député La France Insoumise du Nord, Hugo Bernalicis.
Donc je résume, on a un article 2 qui nous permet d'interdire des gens de manifester sur la base de raisons sérieuses de penser que, pour ensuite les inscrire dans un fichier en tant que personne recherchée. Ça vous semble normal, tranquille, dans l'air du temps, logique? Je sais pas, je suis le seul à être choqué dans cette pièce par ce que vous êtes en train de faire.
Et cette mesure, elle va donc permettre aux forces de l'ordre de vérifier avec une tablette, par exemple, si une personne a ou non le droit de manifester. Le garde-fou, c'est que la mesure ne durera pas ad vitam aeternam puisque la personne sortirait de ce FPR, ce fichier des personnes recherchées, une fois son interdiction de manifester terminée.
Maxime Fayolle, et le texte sera examiné mardi à l'Assemblée. Un mois après l'interpellation de l'État pour carence fautive en matière de lutte contre le réchauffement climatique, action lancée par 4 ONG et soutenue par plus de 2 millions de personnes, le maire de Grande-Synthe, dans le Nord, attaque l'État pour inaction climatique. À la mi-novembre, l'écologiste Damien Carême avait formulé un recours gracieux, mais sans réponse de l'État, l'élu a décidé de s'adresser, comme le lui permet la loi, à une juridiction supérieure, le Conseil d'État. La procédure devrait prendre au minimum un an, Véronique Rebérotte.
Cette fois, l'État devra se positionner. Avec cette nouvelle procédure, le maire de Grande-Synthe, maire vertueux s'il en est, en matière de réduction de gaz à effet de serre dans sa commune, le maire, Damien Carême, espère obtenir des juges des injonctions contre l'inaction ou l'action insuffisante de l'État. Implantée sur un sol argileux, la ville de Grande-Synthe s'estime particulièrement vulnérable au risque d'érosion et d'inondation. Damien Carême.
La menace chez nous, c'est la menace de la submersion marine. J'enjoins l'État à prendre les décisions pour limiter ce changement climatique. Il n'y a pas un secteur en particulier. Il faut lutter contre le réchauffement climatique. Il faut baisser le CO2, les émissions de CO2, les gaz à effet de serre. Et ce n'est pas une obligation de moyens, c'est l'obligation de résultats. C'est en ça que les Pays-Bas ont été condamnés il y a quelques mois maintenant, d'arriver à moins 25% de CO2 en 2020. Donc avec un objectif, et il faut mettre autant de moyens qu'il faudra pour atteindre cet objectif. Quand le ministre, il y a 2 mois, a botté en touche en disant c'est pas devant les tribunaux qu'on réglera ça, ben si, c'est devant les tribunaux. La France était la plus mauvaise élève en matière de pollution atmosphérique, de qualité de l'air en France. L'État ne bougeait pas jusqu'à ce qu'il y ait un recours auprès de la Cour de justice européenne qui a enjoint l'État français de mettre en œuvre un plan sous menace de quelques milliards de pénalités. Et du coup, l'État met en place un plan de lutte contre la pollution atmosphérique dans les grandes agglomérations.
Damien Carême estime que l'État français ne respecte pas ses engagements climatiques internationaux, notamment ceux pris dans le cadre de l'accord de Paris en 2015. L'an dernier, les émissions de CO2 ont augmenté de 2% en France.
Et pour conclure ce journal, un portrait, celui de Priyanka Gandhi Vadra, petite fille de l'ancienne première ministre indienne Indira Gandhi. À quelques mois des élections législatives en Inde, le parti du Congrès, en perte de vitesse, a décidé de miser sur la fille de Sonia Gandhi et sœur de Rahul Gandhi, le président en exercice du parti. Priyanka Gandhi est chargée de mener la campagne électorale dans la région orientale de l'Uttar Pradesh, l'État indien le plus peuplé, crucial dans la conquête du pouvoir. On retrouve Sébastien Farcy à New Delhi.
Cheveux courts, lignes fines et nez aquilin, Priyanka Gandhi rappelle à beaucoup d'Indiens sa grand-mère, Indira Gandhi, première ministre à la poigne de fer dans les années 70 et 80. La jeune femme de 47 ans n'a joué pour l'instant que des seconds rôles dans le parti du Congrès en soutien à sa famille. Elle rentre à présent dans l'arène en prenant la tête de la section de l'Est de l'Uttar Pradesh où se trouve Benares. Un rôle difficile car c'est justement dans cette ville sacrée qu'a été élu le premier ministre sortant Narendra Modi. En intégrant Priyanka Gandhi, le Congrès veut raviver la flamme d'une formation en déroute. Ce parti, qui a dirigé les 2/3 des gouvernements depuis l'indépendance, a obtenu moins de 10% des sièges de l'Assemblée il y a 5 ans. Le parti nationaliste hindou au pouvoir dénonce dans cette élévation la tradition dynastique du Congrès, dont la direction n'est quasiment jamais sortie du giron de la famille depuis la présidence de Jawaharlal Nehru en 1951. Priyanka Gandhi a une autre faiblesse, son mari. Robert Vadra est en effet soupçonné d'accaparement illégal de terres et de corruption dans de nombreuses affaires et les adversaires du Congrès ne se priveront pas d'utiliser cette arme pour attaquer les Gandhi pendant la campagne qui débute.
Sébastien Farcy, correspondant de RFI et France Culture en Inde. Météo France maintient la vigilance orange neige verglas en Corse et la vigilance avalanche dans quatre départements des Pyrénées ainsi qu'en Andorre. Demain jeudi, le temps sera agité en Corse le matin avec des averses parfois orageuses. Ailleurs, ce sera plus calme, plus sec, mais le ciel restera bien nuageux. Les températures resteront froides, de 0 à 6 degrés le matin, de 4 à 8 l'après-midi, jusqu'à 12 sur la Côte d'Azur, mais seulement moins 1 à 2 dans le nord-est et le centre-est. Ce journal a été préparé avec Jean-François Braun.